vous invite ce matin à ouvrir ensemble nos Bibles dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Pour lire à partir du verset 28, verset que vous connaissez certainement bien, mais nous poursuivrons jusqu'au verset 30. Romains 8, verset 28 à 30. Et nous parlerons ce matin du salut vu du ciel. Et nous parlerons surtout d'une destinée que Dieu a préparée pour ses enfants. Nous savons du reste, et je crois que même sans regarder l'écran, beaucoup d'entre nous, nous pourrions citer ces paroles, les dire avec moi, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Lorsque nous prêchons l'évangile du salut, nous mettons l'accent sur la personne et sur l'œuvre et les paroles de Jésus. Et nous avons raison de faire cela, puisque notre salut est fondé sur l'incarnation du Seigneur, sur sa mort sanglante à la croix et sur sa résurrection. Mais nous ne devons pas faire l'économie de considérer l'importance de Dieu dans la réalisation du salut. Il est vrai que sa part, son rôle semble plus difficile à appréhender, à comprendre, mais je voudrais vous montrer que son rôle n'est pas du tout anecdotique. Alors c'est vrai, ce n'est pas le Père qui est descendu parmi les hommes, c'est le Fils. Lui, le Père, est resté au ciel. Mais c'est du ciel que Dieu a préparé de toute éternité le salut qu'il a manifesté en Jésus. Et c'est même du ciel, nous allons le voir, qu'il conduit l'accomplissement de ce salut parmi les hommes. Alors si ce matin nous voulons comprendre quel est le rôle du Père, quelle est la place du Père dans l'accomplissement du salut, nous devons adopter un autre point de vue. Non pas celui de la croix, mais celui du trône de Dieu. Nous le pouvons puisque la Bible nous dit qu'il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alors de cette position extraordinaire, nous allons contempler le salut d'une manière différente. Non pas à la façon des hommes, non pas un salut centré sur moi, mais nous allons le regarder à la manière de Dieu. Une manière qui voit les temps comme un unique présent. Dieu est présent au début, il est présent à la fin, il est présent en tout temps. Dieu qui considère tout homme, Dieu qui connaît chaque homme, et Dieu qui poursuit un but. Ce matin donc, je voudrais vous inviter avec moi à considérer le salut vu depuis le trône de Dieu, vu depuis le cœur du Seigneur. Et nous placer dans cette perspective va nous donner un nouveau sens quant à notre salut. Je crois que le salut se découvre à la croix de Jésus-Christ, c'est évident. Mais il me semble que pour comprendre véritablement ce qu'est le salut, il faut nous tenir aux côtés du Père. Je vais aborder avec vous trois points ce matin. Le premier sera le sens de notre destinée. Dieu a une destinée pour nous. Deuxièmement, nous verrons que nous avons été réservés pour cette destinée. Et enfin, nous verrons que cette destinée est entièrement portée par Dieu lui-même. Alléluia. Au verset 28, nous avons là une source d'encouragement, n'est-ce pas ? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour nous, c'est aussi une source d'encouragement, une source de persévérance, dans la foi, dans l'épreuve. Nous nous attachons à ce verset, à cette parole, en nous disant que même si nous ne comprenons pas tout ce qui se passe dans notre vie, lui au moins le sait. Et lui reste en contrôle. Mais si nous restons simplement à cette idée-là, nous manquons l'essentiel. Parce que Paul nous parle d'une dimension que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que Dieu a un dessein pour nous. Si nous oublions le dessein de Dieu pour notre vie, nous risquons de tomber malgré tout dans un certain fatalisme. Où nous disons que certes, toutes choses qui nous arrivent concourent à notre bien, mais nous les voyons presque comme une fatalité. Ma foi, Dieu en a décidé ainsi. Mais ce n'est pas le sens de ce texte, bien au contraire. Ce que Paul nous enseigne ici, c'est que toutes choses qui nous arrivent vont dans un même sens. Car Dieu poursuit un but dans notre vie. Dieu a un destin pour notre vie. Avons-nous conscience de cela? Car la connaissance de ce dessein de Dieu, de cette destinée de Dieu, donne un sens à notre vie. Il est vrai que l'apôtre Paul ne parle pas simplement d'un destin, mais d'un prédestin, une prédestination. C'est-à-dire qu'avant même que nous soyons venus sur terre, et il dira même dans l'épître aux Éphésiens, bien avant la fondation du monde, Dieu avait déjà préparé un destin pour chacun d'entre nous. Le point intéressant, c'est que ce mot destin, prédestin, prédestiné, vient d'un mot grec, horizo, pro-horizo, horizo qui, en français, s'est déformé pour donner le mot horizon. Et quand Dieu prépare pour nous une destinée, il est en quelque sorte celui qui fixe devant nous un nouvel horizon. Je ne sais pas quel était notre horizon avant de connaître Jésus-Christ, mais il est clair que Dieu avait préparé un horizon nouveau pour notre vie. Plaçons-nous sur un bateau, et nous savons qu'alors que le navire vogue sur l'océan, l'horizon se dessine au loin et il a son cap. Et quel que soit l'état de la mer et du vent, il poursuit son cap. S'il oubliait son cap, il serait perdu. Mais même lorsque dans la tempête, il poursuit le cap, il sait qu'il n'est pas perdu. Il peut y avoir les vagues, il peut y avoir le vent ou ne pas avoir du tout de vent. Le principal, c'est de garder le cap. Et mes frères et sœurs, nous devons regarder ce verset 28 dans cet état d'esprit. Nous sommes des pèlerins sur cette terre, en route vers cet horizon. Et nous ne devons jamais perdre de vue l'horizon que Dieu a préparé pour nous, cette destination, ce sens du destin. Nous sommes sur les vagues de ce monde, les vagues de notre vie. Par moments, la tempête est là, les vagues se creusent, les dépressions, le souffle du vent. Parfois, pas de vent du tout, et nous avons l'impression de stagner. Mais ce qui compte, c'est de ne jamais oublier qu'il y a un but, qu'il y a une destinée, qu'il y a un nouvel horizon que Dieu a dessiné pour nous. Alléluia! Alors, quel est-il exactement ce nouvel horizon? Quel est-il cette nouvelle destinée? Rappelons-nous ceci, Dieu nous a créés en vue d'une communion. Le projet de Dieu en créant l'homme, c'est d'avoir quelqu'un qui soit semblable à son image pour avoir une relation avec lui. Car en effet, comment avoir une relation avec quelqu'un qui n'est pas à notre image? Rappelons-nous Adam, que Dieu avait placé là au beau milieu de cette création extraordinaire et merveilleuse. Mais malgré tout, Adam se sentait seul parce qu'il n'y avait personne qui soit semblable à lui, qui soit à son image, avec qui il pouvait avoir une relation. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a donc amené vers lui Ève, tirée de lui, semblable à lui. C'est ce que dira Adam. Cette image, nous l'avions reçue, nous l'avons perdue. Nous l'avons perdue parce que nous nous sommes livrés au péché. Et nous livrant au péché, nous avons rompu la relation, la communion avec Dieu. Mais le plan de Dieu demeure. Et ce plan s'accomplira. Et dès l'éternité, le Seigneur avait déjà conçu en lui ce que nous appelons le plan du salut, qui n'est pas un plan B. Il n'est pas intervenu après la chute de l'homme. Dieu n'a pas été pris de court, car Dieu, de toute éternité, avait préparé le salut. Pourquoi a-t-il fait cela? Ou parce qu'il connaissait la responsabilité qu'il nous accordait quant à cette image qu'il nous confiait. Alors il a préparé ce plan du salut pour donner secours aux hommes dans le but de les réunir en lui. Comment? en restaurant en nous son image. Mais ce coup-ci, il ne nous a pas donné une image imparfaite. Il nous a donné une image parfaite. Il nous a donné Jésus, l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire, une image indestructible, incorruptible, inaltérable. Et Dieu a donné mission au Saint-Esprit d'agir dans la vie de ceux qui croient pour les transformer de jour en jour à l'image de son Fils bien-aimé. Paul dit dans les Colossiens de nous recréer chaque jour à l'image de son Fils. Gloire à Dieu. La croix est incontournable, c'est certain. Mais la croix n'est pas la fin en soi. Jésus n'est pas venu simplement pour mourir à la croix. Il est venu pour livrer un combat contre le péché et pour triompher du péché. La croix est une étape, mais le triomphe, c'est la résurrection. La croix, pour nous-mêmes, est une étape, celle de la destruction de notre ancienne image corrompue. Mais Dieu poursuit un projet qui est bien plus grand que simplement le pardon des péchés. Le salut ne s'arrête pas à la repentance et au pardon des péchés. Le salut de Dieu, le plan de Dieu, c'est cette destinée. Être semblable à l'image de son Fils, afin que nous ayons une communion avec lui. Quelle perspective, mes frères et sœurs. Quel horizon cela donne à notre vie. Avez-vous ce sens du destin ? Avez-vous saisi ce que Dieu veut faire dans votre vie ? Il est bon alors de s'asseoir dans sa présence et de contempler son œuvre, ce que Dieu veut faire en nous. Mon deuxième point est de dire que Dieu a réservé certains hommes pour cette destinée. Il est un petit mot, un pronom démonstratif qui nous interpelle dans ce passage. C'est ceux. C-E-U-X, ceux. Il y a ceux et il y a les autres. Ceux, ce sont ceux pour qui Dieu a préparé une destinée. Et il y a les autres. Faites-vous partie de ceux ? Oh, gloire à Dieu ! C'est dans sa grâce que nous pouvons aujourd'hui dire « Oui, nous faisons partie du peuple de Dieu ». Humainement parlant, cela peut paraître parfois être très exclusif, sélectif, peut-être même contradictoire. N'est-il pas dit que Dieu veut le salut de tous les hommes ? Alors pourquoi est-il parlé de ceux et pas d'autres ? Pourquoi y en a-t-il que Dieu réserve pour ce salut, cette destinée, et d'autres que Dieu aurait oublié ? Qui sont donc ces ceux ? Ce qui est certain, c'est que Paul ne les qualifie pas. C'est abstrait. C'est indéfini. Finalement, ceux, c'est n'importe qui. Et dans le contexte de cette épître, c'est très important. Paul n'a pas dit que ceux, ce seraient les Juifs ou des gentils qui auraient cru. Ceux ne tient pas compte de notre passé. Il ne tient pas compte de notre religion. Il ne tient pas compte de notre couleur de peau. Il ne tient pas compte de notre culture, de notre milieu social. Ceux, c'est n'importe qui. Ceux, c'est... comme dans la parabole du Samaritain, un homme descendait de Jérusalem. Qui est cet homme ? Qui est-il ? C'est ceux sans description particulière. C'est vous, c'est moi, c'est notre voisin. Il arrive souvent que ceux, ce soit qui, des personnes à qui on ne pensait pas du tout. D'ailleurs, le Seigneur nous a-t-il pas dit que les prostituées et les publicains nous devanceront dans le royaume de Dieu ? Ce qui me permet de vous dire que nous n'avons pas mission d'essayer de définir qui est ceux. Dieu connaît qui est ceux. Nous, il nous dit prêcher l'évangile à tout le monde. Nous ne connaissons pas ces ceux, sinon qu'aujourd'hui, parce que nous avons confessé ensemble le Seigneur Jésus-Christ, celui que j'appelle mon frère, ma sœur, ensemble, nous ne pouvons pas dire que nous faisons partie de ces ceux. Béni soit Dieu pour cela. Mais Seigneur, comment en es-tu arrivé à choisir, à dire, lui a cette destinée, lui n'aura pas cette destinée. Alors, nous parlons du conseil éternel de Dieu. De toute éternité, Dieu a exprimé quoi ? Une volonté, un amour, une connaissance. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. L'amour de Dieu s'est manifesté dans le don de Jésus-Christ. Dieu a tellement aimé les hommes, tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils afin que quiconque, c'est la version singulière de ceux, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a donc une espèce de dimension universaliste du salut. Dieu n'exclut personne, il ne fait exception de personne. Et il envoie ses disciples prêcher l'évangile à tout homme. Il ne nous appartient pas de vouloir sélectionner certains. Lui, Dieu les connaît, nous ne les connaissons pas, ce n'est pas notre mission de les connaître, nous l'avons dit. Il y a donc la volonté de Dieu, il y a l'amour de Dieu et il y a la connaissance de Dieu. Qui est en fait une préconnaissance. Car depuis le trône de Dieu, nous voyons les choses d'une manière différente. En tout cas, lui les voit d'une manière différente. C'est que tous les temps, futurs, passés, ne sont qu'un présent devant lui. Il connaît avant, il connaît à la fin. Il connaît toutes choses, il connaît chacun. Et ce que je vais dire, je le résume par une phrase un peu énigmatique, je vais essayer de l'expliquer, c'est que la connaissance de Dieu actualise sa volonté et son amour. Dieu veut le salut des hommes, il aime tout homme, mais sa connaissance de tout homme et de chaque chose va en quelque sorte mettre à jour sa volonté et son amour. Il est prêt à sauver, mais il sait ceux qui seront sauvés et ceux qui ne le seront pas. Mais plus exactement, qu'a-t-il donc connu dans ces ceux qui les amènent à les prédestiner? Et peut-être, on va être plus précis, qu'a-t-il donc connu en nous? Qu'a-t-il donc connu en moi pour me donner cette destinée unique et extraordinaire? A-t-il connu mes œuvres? Mais Seigneur, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Si c'est nos œuvres que tu avais connues, nous ne serions plus dans l'évangile de Jésus-Christ. M'as-tu connu moi, Seigneur? As-tu connu ma personne? Ne serais-je pas mieux que les autres? Oh! Nous savons bien que de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à connaître. Et ce qu'il a pu en connaître nous fait rougir. C'est certainement pas de ce côté-ci qu'il faut chercher. Mais Seigneur, dans quel sens peut-être, Seigneur? Parce que tu as connu, bien avant la fondation du monde, que j'écouterai ta parole et que je croirai. J'ai besoin de me rappeler, Seigneur, aussi que les démons croient. Tu as même dit, Seigneur, que certains, au jour du jugement, t'appelleront Seigneur, Seigneur, et qu'ils te rappelleront tous les miracles qu'ils ont faits par ton nom, les délivrances, les prophéties qu'ils ont apportées. Pourtant, tu leur diras, je ne vous ai jamais connus. Et puis Seigneur, je me dis au bout du compte, mais si je crois, ce n'est pas parce que je l'ai voulu. Si je crois Seigneur, si même j'ai entendu ta parole, c'est parce que tu as ouvert mon cœur. Et c'est parce que tu m'as amené à croire. La foi n'est-elle pas un don de Dieu? Alors Seigneur, je crois, mais je te rends grâce parce que je crois. Donc, si tu as connu, ça ne peut pas être ça, puisque la foi, c'est le don de Dieu. Qu'as-tu connu de moi? Que je craindrais ton nom? Mais Jérémie a dit, de toute façon, Seigneur, que c'est toi qui plantes la crainte de ton nom dans nos cœurs. Qu'as-tu connu de moi? Que je t'aimerais, Seigneur? Oh, certes! Mais je ne peux pas oublier que toi, tu m'as aimé le premier. Et que c'est ton esprit qui a répandu dans mon cœur ton amour. Seigneur, j'en arrive à reprendre cette parole de Paul de la première épître aux Corinthiens qui dit, Seigneur, qu'est-ce qui me distingue? Qu'est-ce qui me distingue de mon voisin? Qu'est-ce que tu as connu en moi? Paul dit encore, Seigneur, mais qu'ai-je que je n'aurais pas reçu de toi? Et là, je touche un mystère. Bien des hommes ont bâti des doctrines, des églises, des théologies, en disant, voilà comment Dieu a choisi. Et je préfère dire, Seigneur, c'est un mystère. Parce qu'il est écrit que seul l'esprit, ton esprit, peut sonder ton cœur. Parce que je ne trouve rien en moi, Seigneur, qui aurait pu déclencher ce sens de cette destinée. Je ne trouve rien en moi, Seigneur, qui puisse expliquer qu'aujourd'hui, je puisse avec mes frères et sœurs confesser le beau nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu as connu en moi, mais tu l'as connu, Seigneur. Et la seule chose que je peux dire avec mes frères et sœurs, c'est merci. Merci, mon Dieu, de m'avoir connu. Et rester dans l'humilité, certainement pas nous enorgueillir, qu'on me dit « Oh, je suis prédestiné !» Seigneur, tu m'as connu dans ton amour. Je voudrais rajouter ce point, pardonnez-moi, c'est une considération peut-être un peu philosophique, théologique, mais vous allez voir, elle est importante. Paul écrit, verset 29, « Premièrement, Dieu nous a connus, ensuite, il nous a prédestinés, et c'est important. » Parce que s'il nous avait d'abord prédestinés, cela voudrait dire qu'il ne tient pas compte de qui nous sommes. Mais Paul écrit que premièrement, il nous a connus. Et ensuite, il nous a prédestinés. J'ai dit, je ne sais pas trop ce qu'il a connu en nous, mais il nous a connus. S'il insiste sur ça, ça veut dire que Dieu, même avant que nous existions, parce que c'est dans l'éternité passée, Dieu a quand même pris le temps de nous connaître individuellement. Il a pris le temps de nous connaître individuellement. Il y a une valeur de l'homme aux yeux de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur lui-même dit qu'il connaît jusqu'au nombre de nos cheveux. J'en vois certains, c'est plus facile que pour d'autres. Mais Dieu a pris le temps de connaître nos vies. Et à partir de là, sans savoir exactement ce qui l'a mené à cela, il nous a préparé une nouvelle destinée, un nouvel horizon. Ce que je comprends donc, c'est que si je fais partie de ce peuple extraordinaire, ce peuple acquis, ce peuple royal, ce peuple de sacrificateurs, ce n'est pas par ma volonté, ce n'est pas par ma chair, par mon sang, mais c'est par la volonté de Dieu. La connaissance de nos vies que le Seigneur a l'a donc amené à nous engager dans une nouvelle destinée, vers un nouvel horizon. Et mon troisième point est de dire que cette destinée est portée par Dieu. Le verset qui suit, verset 30, est absolument merveilleux. Il a un sujet, il, qui est il, Dieu. Dieu qui nous a prédestinés, il connaît la fin. Parce qu'il connaît la fin, maintenant, lorsque nous venons sur terre, au moment fixé par Dieu, il va nous prendre et il va nous faire rentrer dans sa destinée. Comprenez-le, le salut, ce n'est pas notre choix. Je ne suis pas sauvé parce que je me suis repenti et parce que j'ai cru. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je parle des choses premières. La chose fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, si je peux confesser le beau nom de Jésus-Christ, c'est parce que Dieu m'a prédestiné et m'a appelé. C'est lui qui, d'étape en étape, depuis son trône, va porter mon salut. C'est lui qui m'appelle personnellement, qui fait retentir sa parole dans mon cœur. Peut-être même j'ai résisté, je n'ai pas voulu entendre, mais que voulez-vous ? Dieu m'a connu, il m'a destiné et il va me faire entendre le message même si je ne veux pas l'entendre. Comme le Seigneur dit à Saul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Avez-vous regimbé ? Un jour vous avez peut-être senti les aiguillons du Seigneur. Et un jour, vous avez vraiment entendu l'appel de Dieu. Non pas simplement une prédication, mais ce jour, c'est la voix de Dieu qui est venue dans votre cœur. Une parole qui a changé votre vie. Et vous avez cru, parce que la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Alléluia. Et c'est ce que Dieu voulait créer, la foi dans nos cœurs. Pourquoi ? Parce que c'est par la foi que nous sommes déclarés justes. Et Dieu nous déclare justes parce que nous avons cru. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est lui qui nous a amenés là, même si on ne le voulait pas. Mais lui, il le voulait. Alors il a décidé de nous appeler pour produire en nous la foi qu'il nous donne, pour nous déclarer justes parce qu'il le veut. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Je me rends compte que c'est toi qui as tout fait. Et dire que c'est moi qui croyais que je suis sauvé parce qu'un jour j'ai fait une prière de repentance et j'ai dit, Seigneur, viens dans mon cœur. Mais si j'ai pu faire cette prière de repentance, si j'ai pu faire cette prière d'acceptation du Seigneur, c'est parce que Dieu m'avait appelé. C'est parce que Dieu me déclarait juste. Et en plus, il me glorifie. Paul dit, il nous a aussi glorifiés. Pour nous, on sait qu'on est loin du compte. Mais lui, il nous voit déjà glorieux. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus nous qu'il voit, mais c'est l'image de son Fils bien-aimé. Et il confie la mission au Saint-Esprit d'actualiser, autrement dit, de rendre efficace ce salut dans nos vies, de nous transformer à l'image de son Fils, parce que c'est là le but, être semblable à Christ. En conclusion, je prendrai ce verset 31, où Paul pose une question, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Je me pose la même question, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Je bénis Dieu vraiment pour ce verset extraordinaire, ce passage unique, parce qu'il est bon de savoir que Seigneur, c'est toi qui es l'alpha, l'oméga de mon salut. Parce que si, Seigneur, mon espérance, mon salut, devait s'appuyer sur ma prière de repentance, et ma prière d'acceptation du Seigneur, je dis, c'est bien faible. Parce que quelle est donc la valeur du souffle de l'homme? Mais je te loue, Seigneur, de ce que mon salut s'appuie sur ta volonté, s'appuie sur ton conseil, s'appuie sur ta décision, ta volonté de nous amener dans ce destin. Parce que je suis convaincu que ce que tu as commencé de faire, tu l'amèneras jusqu'au bout. Alors comme Paul le dit après, nous y reviendrons plus tard sur ce passage, il dit, mais finalement alors, qui pourra m'accuser? Puisque c'est Dieu qui me justifie. Qui pourra me condamner? Qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Puisque ce n'est pas moi qui l'ai voulu, mais c'est lui qui a voulu mon salut. Et je loue Dieu pour ça. Et maintenant, je peux dire, Seigneur, oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Je suis au milieu de l'océan de ma vie. Mais quelles que soient les tempêtes, les vagues, je ne perdrai pas le cap parce que Dieu me conduira jusqu'au bout, au bout de cet horizon qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ô Seigneur, ce matin, je veux te rendre gloire. Comme le psalmiste le dit, toutes nos sources sont en toi, mon Dieu. Je veux te remercier pour le don de Jésus-Christ, parce que sans la croix du Golgotha, sans le sang versé, nous ne serions pas là. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons aussi considérer ton amour, ta volonté, ta connaissance. Nous voulons considérer le salut qui vient de ton cœur. Et Seigneur, je veux dire, tu es présent de toute éternité. Tu me connais de toute éternité. Je suis émerveillé parce que je ne sais pas ce que tu as connu en moi qui m'est conduit vers ce destin. Alors je te loue, mon Dieu. Je te loue parce que ce n'est pas moi qui a voulu être sauvé, mais c'est toi qui a voulu me sauver. Ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose pour cela. C'est toi, Seigneur, même qui a mis la foi dans mon cœur. C'est toi qui m'as déclaré juste alors que je n'étais qu'un pécheur. Seigneur, je te loue, mon Dieu, parce que c'est toi qui nous sanctifie, tu es fidèle pour le faire et tu le feras. Seigneur, à toi tout l'honneur, à toi toute la gloire. Tu es le premier, le dernier, au commencement, à la fin, à chaque instant, auprès de chacun d'entre nous. Nous faisons partie de ce peuple des ceux que tu as appelés, ceux qui t'aiment. Mais Seigneur, ma prière aussi, et pour tous les ceux que tu connais, et qui sont encore dans ce monde. Seigneur, notre mission est là encore, de pouvoir parler de toi, de semer ta parole, sans nous soucier de savoir dans quel cœur elle va tomber, mais de compter sur ta grâce et sur ta volonté, pour transformer même les cœurs les plus durs, parce que tu as préparé un destin pour eux. Seigneur, règne. Règne, Dieu de gloire. Et merci pour ta puissance qui tient nos vies. Amen. Alléluia.